France Culture.
Le cours sans sucre ?
Le cours sans sucre,
c'est
tout à fait.
C'est le traditionnel.
Ouais, c'est le tradit, ouais. Je suis complètement tradit. Bon, bah, à tout à l'heure. Salut. Vous allez bien, Marie ?
Oui, ça va et vous ? Bienvenue.
J'étais en train de me dire, où sont mes extraits ?
Le Book Club.
Vous cherchez les extraits. Je les ai en photocopie, moi aussi.
Ouais, mais je me dis que c'est mieux les livres pour...
Ubique, c'est bon, j'ai l'extrait. Et Déborah Lévy, c'est bon.
Dans la bibliothèque de Barbara Carlotti.
Moi, j'adore mettre mon casque, ça me rappelle quand je faisais de la radio.
Mais oui, on est bon ?
On est tout bon.
Marie Richeux.
La dernière chanson de votre dernier disque, Barbara Carlotti, s'appelle « Le syndrome de Stendhal ». L'expression désigne un tourbillon d'émotions qui prend la voyageuse ou le voyageur devant des chefs-d'œuvre d'art. Les larmes de joie devant la beauté ou l'amour, la chamade du cœur et l'âme sensible, tout cela ne nous étonne pas de vous. Depuis que vous écrivez et composez de la musique, on leur suppose ces chansons des sous-sols littéraires, poétiques, cinématographiques. On vous a vu, souvent, du reste, donner des lectures sur scène, dans des librairies, publier vos propres textes, bref, être comme lié à ce qu'on appelle le monde littéraire. C'est pourquoi nous étions curieuses et curieux au Book Club de savoir ce qu'il y avait dans votre bibliothèque, quel genre de lectrice vous êtes. On a une heure pour dessiner ce portrait avec un peu de Philippe Kadic, un peu de Baudelaire, un peu de Déborah Lévy ou de Virginia Woolf, belle compagnie. Merci beaucoup, Barbara Carlotti, d'avoir accepté l'invitation du Book Club.
Merci à vous.
Il marche toujours ce titre de...
Flavien Berger, formidable.
Flavien Berger, formidable. J'ai eu cette citation étrange alors que j'entends ce générique tous les jours. Ce titre du Book Club, non, de Flavien Berger. Vous êtes quel genre de lectrice en ce moment ?
En ce moment, je suis pas mal avec Déborah Lévy parce que j'accompagne sur une lecture, voilà. Donc je suis dans son bleu d'août et voilà. Mais sinon, moi, je vais picorer à droite, à gauche. Récemment, là, j'ai lu dans le train. La Pitié vous parle de Liv Strömquist, qui parle de Hartmut Rosa. Et je me suis dit, il faut absolument que je lise Hartmut Rosa. Donc voilà,
grand philosophe allemand.
Ouais,
tout un programme.
C'est tout un programme qui m'intéresse beaucoup en ce moment dans ma réflexion sur comment chérir son futur.
Pour faire référence au titre de l'album que vous venez de faire paraître. Donc ça, c'est la lectrice que vous êtes en ce moment. Si on remonte un tout petit peu le fil, est-ce que vous avez gardé un souvenir précis ou pas de votre apprentissage de la lecture ?
Alors moi, j'ai une mère qui lit énormément, et ma sœur aussi, ma grande sœur Laetitia, lit énormément. Donc j'ai une famille et puis mon père, je l'ai vu pas mal lire, mais c'est plutôt le fait de partager des livres, c'est plutôt avec ma mère et ma sœur. Et donc j'ai quand même un environnement où il y avait des livres à la maison, effectivement, et surtout on peut en parler, on peut se les passer, ou on les laisse traîner et puis on les récupère. Mmh. Donc, je pense que j'étais comme ça. Voilà, j'étais dans un environnement de lecteur. Ça m'a donné sans doute envie. Et puis, moi, adolescente, vraiment, j'avais du mal à lire, à me concentrer. J'avais des problèmes oculaires un peu importants qui faisaient que j'avais du mal à lire. Mais donc, je lisais énormément de poésie. Et j'ai commencé par la poésie, vraiment. Je lisais.
Parce que plus bref, concrètement.
La bref. Ouais. Aussi, je pense. Des sensations, des images, des métaphores, des allitérations, des choses sonores aussi, qui font que je pense que j'étais sensible, plutôt qu'un grand récit long, j'étais sensible à ces petites formes, comme les chansons d'ailleurs.
C'est ce que j'allais dire, ça jouxtait déjà l'écriture de chansons ou votre plaisir à ça ou pas encore?
Oui, parce que j'ai écouté de la musique aussi assez tôt, je parle tout le temps de ma famille, j'avais un oncle qui chantait des chansons en s'accompagnant à la guitare et ça faisait partie aussi de... Donc je pense que voilà, tout ce vivier de petites formes aussi autour de moi, sonore, en tout cas j'avais une inclinaison pour les petites formes, parce que aussi j'ai dans le temps aussi continué à lire beaucoup de nouvelles. Je pense que j'aime bien les petites formes brèves. Moi, j'aime bien qu'on me raconte des petites histoires.
C'est marrant parce que vous évoquez en fait une possible conversation autour des livres, chose que font assez peu de nos invités qui parlent beaucoup d'un rapport solitaire à la lecture. Or, vous parlez du fait de pouvoir parler des livres avec votre mère, votre sœur, peut-être des amis.
Ouais.
C'est quelque chose que vous aimez, ça ?
Oui, bien sûr. Je pense que c'est surtout qu'on se donne des outils de pensée quand on
partage des
livres. Et donc, ça nous permet... Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est aussi des moyens de communiquer avec les gens plus facilement, en fait. Parce que c'est plus facile de parler de livres, parfois, que de parler de soi. Mm. Donc, c'est des biais d'entrée, en fait, je pense.
En contact, en fait.
En contact,
ah, oui.
Absolument. Et donc, voilà, mais c'est comme partager de la musique. Enfin, en tout cas, moi, je pense que mon rapport à la littérature, au cinéma... aux formes artistiques en général, à la musique, c'est le partage. C'est vraiment un biais de relation aux autres pour moi.
D'ailleurs, j'évoquais cette sensation qu'on a avec votre musique depuis le début, qu'il y a justement des sous-sols comme ça, des sous-sols artistiques, mais très larges, très vastes. Et pourtant, il n'y a pas de citation, ou il peut y avoir des citations peut-être plus ou moins cachées, musicales probablement que je maîtrise moins, mais ce n'est pas des choses que vous affichez. Pourtant, on s'imagine ça. On s'imagine que c'est que la pointe de l'iceberg, le disque, quoi.
Ah oui, bon, je sais pas, parce que... en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis la fin de mon adolescence, enfin vraiment, quand j'ai décidé de faire quelque chose de ma vie, je pouvais pas choisir entre la peinture, le dessin ou la peinture, la musique, le cinéma, enfin, il y avait quelque chose où, pour moi, embrasser une carrière artistique, ça signifiait vraiment d'embrasser toutes les formes artistiques, en fait. C'est-à-dire d'aller voir un peu partout cette histoire des correspondances. C'est-à-dire les échos qu'on peut en donner par différents médiums, en fait. Donc, pour moi, il n'y avait pas de séparation nette. Et donc, je suis toujours allée... Enfin, en fait, je pense que surtout, on ne crée pas à partir de rien. Et donc, pour moi, c'était important qu'il y ait toujours quelque chose... Enfin, en tout cas, ça me nourrit tout le temps, quoi.
Est-ce que ça veut dire que la lecture, elle n'occupe pas de place ni prépondérante, ni particulière au milieu des autres arts ?
Ouais.
Ouais.
Pas prépondérante. Il y a des périodes où je lis énormément et il y a des périodes où je lis pas du tout pendant 6 mois.
Est-ce que ça raconte quelque chose de ces périodes ou pas du tout ? Est-ce que non, les périodes où vous ne lisez pas Barbara Carlotti, c'est souvent quelque chose, et puis les périodes où vous lisez beaucoup, c'est souvent autre chose, ou il n'y a pas de règle ?
J'en sais rien, je ne regarde pas trop dans le détail ce que je fais, ce que je ne fais pas, pourquoi. Mais pourquoi je ne fais...
Pas le temps pour ça.
Parfois ça me préoccupe de ne pas lire assez, ou parfois tout d'un coup je ressens le manque, mais c'est plutôt que je suis emmenée quoi, par les choses. Il y a des périodes où je vais énormément au cinéma, et donc j'ai moins le temps de lire. Et donc je ne lis pas. Il y a des périodes où je vais beaucoup écouter de musique. Donc non, c'est plutôt des espaces, je pense, que j'ouvre. Et puis parfois j'ai des, oui, c'est plus une histoire de besoin, je crois, de soit de m'immerger dans la musique, dans la littérature. Donc voilà. Ou parfois juste simplement je me mets à lire et je suis dans un, je suis dans un appétit fou de mots et voilà. Et je lis. Quoi.
Est-ce que ça nourrit directement l'écriture de vos chansons? Ou de vos textes, parce que vous avez aussi publié un recueil de textes. Mais vous savez, les ponts, les correspondances, justement, des choses qui peuvent venir d'un livre et atterrir dans des chansons, vous le voyez ?
Je le vois a posteriori. C'est-à-dire, quand j'écris, je ne me pose pas du tout ces questions. Enfin, quand j'ai écrit mon livre, si, parce que je suis vraiment allée puiser par moments...
Dans des références,
dans des références précises. Mais par contre, je pense que quand j'écris des chansons, ce qui arrive dans le flux musical et je me pose pas du tout la question de savoir d'où je prends ça. Mais parfois, je prends des petites notes quand même. Enfin, je prends souvent d'ailleurs des petites notes dans des carnets et je les réutilise. Donc, ça vient forcément de quelque part. Mais ça peut...
Des notes de citation, par exemple ?
Pas nécessairement. Oui, ou des formules que j'entends, ou tout d'un coup un propos sur un livre et puis ensuite je vais aller voir dans le livre. Enfin, donc, en fait, ça circule assez librement. Mais oui. Alors, par moments, il y a des références très précises, mais souvent, non. C'est ce qui remonte à la surface, naturellement, parce que ça fait partie, peut-être, de l'inspiration initiale et que, hop, ça revient dans le flux de création.
Est-ce que vous avez des horizons de lecture? Est-ce que vous vous dites que vous avez rendez-vous avec des œuvres ou des auteurs, des autrices, comme une sorte de point clignotant là-bas, un désir, quoi. Vous dites un jour, je pense que j'irai là-bas.
Moi, c'est mon grand malheur, c'est de jamais avoir réussi vraiment à lire Proust. C'est vraiment, je pense, que c'est le complexe que beaucoup de gens partagent. Mais
Mais parce que socialement, ça aurait une valeur, ou parce que vous vous dites.
Pour moi,
j'ai une aventure
pour
à vivre
goûter
là-bas.
Quelque chose qu'on me raconte comme étant particulièrement délicieux, mais pour l'instant, j'en ai pas le goût, et je me dis que c'est parce que je suis pas encore assez ouverte, en fait, ou réceptive. C'est plus ça, en fait. Très souvent, j'ai pas. Et puis surtout, il y a une telle infinité de classiques, notamment, parce que moi, j'ai pas beaucoup lu les classiques quand j'étais jeune. J'étais beaucoup science-fiction.
Il y en a qui vous font des petits clins d'œil.
Alors, j'ai découvert Balzac très récemment, par exemple. Mais vraiment, j'ai adoré. Donc, j'ai eu ma période Balzac d'un coup. Mais vraiment, pas du tout lu ça quand j'étais ni au lycée, ni rien. Donc, j'ai tout d'un coup mis les pieds quelque part et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc Victor Hugo, j'ai pas lu, par exemple, très peu lu, quoi.
Donc ça vous attire, quoi? Parce qu'on vous dit que c'est monumental et que c'est bien.
Non, ça m'attire parce que parfois j'entends des choses, des extraits où moi j'écoute beaucoup la radio, donc il y a aussi ça, c'est-à-dire j'entends des gens en parler ou quelqu'un me dans mon entourage m'en parle et je me dis ah mais ça doit être fabuleux de pouvoir goûter à ça, donc c'est souvent ça, hein, c'est souvent pour le partage aussi.
Et puis, on y revient finalement, la conversation autour des textes. Ouais. Est-ce qu'il y a des livres chez vous?
Beaucoup, beaucoup trop. J'en vire régulièrement, mais j'ai même il y a une cave de chez mes parents qui est remplie de cartons de livres. Où je me suis toujours dit, je vais les mettre quelque part. Ceux que j'avais pendant que j'étais à la fac. Et vraiment, je voulais pas du tout m'en débarrasser. Donc, je les ai scrupuleusement rangés dans des cartons en me disant, un jour, j'aurai une grande maison pour pouvoir abriter tous ses compagnons. Mais j'ai toujours pas cette grande maison.
Mais vous avez beaucoup de livres.
Donc j'ai trop de livres, donc parfois je me sépare de livres et c'est comme si je m'arrachais un peu un cil ou un ongle.
Comment c'est organisé tous ces livres chez vous, Barbara Carlotti? En gros?
Par thématique, bizarrement.
Ah ouais. Ah, j'aime bien les bibliothèques thématiques.
Ouais, moi j'adore faire des thématiques. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de spectacles par thématique, par exemple tous mes livres sur le dandysme ou de dandy ou qui pourraient s'approcher du dandysme, je les ai rassemblés. La Beat Generation aussi. Du coup, après, je fais des espèces d'extensions un peu à la thématique autour, ce qu'il y a autour, ce qui a nourri autour. Donc, on peut trouver David Lynch autour de la Beat Generation, mais pourtant, c'est pas vraiment. L'affiliation n'est pas tout à fait directe.
Mais c'est un peu une bibliothèque de chercheuse, ça.
Ouais, c'est quelque. C'est ça. C'est des endroits d'exploration, en fait. Mm. Et donc, je rassemble ce qui m'a permis d'explorer un domaine. Donc, après, j'ai tous les livres sur la musique. J'en ai beaucoup.
Vous en avez? Vous lisez volontiers ça?
J'aime bien les biographies, d'artistes, de musiciens. Et puis, j'ai énormément de bandes dessinées aussi, parce que j'adore les bandes dessinées, les romans graphiques. J'ai pas mal de poésie, mais par exemple, la poésie, comme je lisais ça j'en ai beaucoup lu jeune, c'est beaucoup, là, pour le coup, dans les cartons. Et j'en ai gardé quelques-uns, mais pas tous. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma bibliothèque? Maintenant, j'ai initié depuis quelques années tout un espace pour les femmes. Les femmes autrices. Et donc,
Elles ont le droit d'aller ailleurs?
Moi, je les mets exprès pour les retrouver facilement et pour pouvoir les consulter.
En priorité.
En priorité, absolument.
On va aller vers vos choix de textes, Barbara Carlotti, juste après ça.
Thank you.
Le Book Club. Dans la bibliothèque de Barbara Carlotti. Marie Richeux.
On arrive dans le deuxième moment de votre bibliothèque, Barbara Carlotti. On vous a demandé, comme à tout le monde, après ce propos liminaire sur votre rapport général à la lecture, de choisir 5 textes étapes. Et libre à chacun, chacune de nos invités d'interpréter cette consigne comme bon lui semble. Comment vous l'avez interprétée, vous ? Vous êtes dit quoi pour choisir les textes ?
Je me suis dit quels sont les livres qui ont sans doute fait une petite révolution personnelle, voilà.
Ok.
Qui ont opéré en moi une petite révolution personnelle, ouais.
Quand même.
Oui, oui, complètement. C'était ça, non ?
Ouais, c'est super. Non, mais parfois c'est un peu différent. Parfois les gens font vraiment une sorte de chemin biographique. Parfois les gens, c'est ce que ça a ouvert comme nouveau territoire. Mais petite révolution personnelle, c'est génial.
Oui, c'est ça. Ah, ouvrir de nouveaux territoires aussi, quoi.
Premier extrait. C'est un extrait d'Orlando, un roman de Virginia Woolf qui est paru initialement en 1928. Vous allez le lire dans une traduction vers le français de Jacques Aubert. Elle parut en 2018 aux éditions Gallimard. Est-ce que vous voulez en dire un mot avant de vous lancer dans l'extrait ou est-ce qu'on y va ?
Oui, je vais en dire un mot parce que je pense que pour le coup, ça, je l'ai lu assez jeune, vers une vingtaine d'années, et ça a été vraiment une révélation pour moi. C'est-à-dire, j'ai vraiment, tout à coup, je me suis dit que je pense à ce moment-là que la littérature était un endroit de plaisir, de pensée et de révolution intime très fort.
Vous l'avez pensé découvert ? Et par la forme, par exemple ?
Ouais, tout la forme, parce que c'est une fausse biographie, c'est plein d'humour, c'est plein de références, et que son personnage d'Orlando m'a complètement, je pense, accompagnée pendant très longtemps, en fait, de ce que ça raconte du genre et de ce que c'est qu'être une femme ou pas.
Vous avez quel âge quand vous découvrez ça ? 16, 17 ?
Non, vingtaine d'années.
Vingtaine d'années, ouais. Ok. Ce personnage dont la fausse biographie s'étend du milieu du XVIe siècle jusqu'à l'époque contemporaine de Virginia Woolf. Donc il y a à la fois tout un transport entre les genres et entre les époques. On vous écoute.
Les habits ne sont qu'un symbole de la réalité enfouie au-dessous. Ce fut un changement intime qui poussa Orlando à choisir des vêtements et un sexe de femme. Peut-être exprima-t-elle par là, plus franchement qu'on ne le fait d'ordinaire, la franchise était sa qualité dominante, une aventure fort commune, quoique rarement avouée. Car nous touchons ici à un nouveau problème irrésolu. Si différents que soient les sexes, pourtant, ils se combinent. Tout être humain oscille ainsi d'un pôle à l'autre, et bien souvent, tandis que les habits conservent seuls une apparence mâle ou femelle, au-dessous, le sexe caché est le contraire du sexe apparent. Nul n'ignore les complications et les confusions qui en résultent. Mais ce n'est pas ici le lieu d'une étude complète. Notons seulement les effets étranges de ce désordre dans le cas particulier d'Orlando. C'est en effet ce mélange en elle des deux éléments, l'homme et la femme, dont tantôt l'un était victorieux et tantôt l'autre, qui donnait souvent à sa conduite un tour inattendu. Et le problème de son sexe était pour certains esprits curieux une source de perplexité. Comment par exemple, si Orlando était une femme, ne mettait-elle jamais plus de 10 minutes à s'habiller ? Comment pouvait-elle apporter si peu d'attention au choix de ses robes et à leur fraîcheur ? Cependant, elle n'avait pas le formalisme d'un homme, l'ambition d'un homme. Elle possédait un cœur presque trop tendre. Jamais elle n'avait pu supporter de voir battre un âne ou noyer un chaton. Mais d'un autre côté, elle détestait le ménage, se levait à l'aube, courait par les champs en été, avant le lever du soleil. Pas un fermier n'aurait pu lui en remontrer sur les récoltes. Elle tenait tête aux meilleurs buveurs et se plaisait aux jeux de hasard. Bonne cavalière, elle pouvait mener 6 chevaux au galop sur London Bridge. Pourtant, avec l'audace et l'énergie d'un homme, elle tremblait comme une faible femme à la vue du danger couru par un autre. Elle éclatait en sanglots pour un rien, ignorait la géographie, jugeait les mathématiques insupportables et soutenait à l'occasion une de ces absurdités plus communes chez les femmes que chez les hommes, par exemple, qu'aller vers le sud, c'est descendre. Orlando était-elle donc plus un homme que femme ? Il est difficile de le dire. Et on ne saurait pour l'instant en décider car son carrosse déjà roulait bruyamment sur les pavés.
Donc cette première lecture se tourne vers Orlando de Virginia Woolf. Qu'est-ce qui vous plaît tant là-dedans ?
Déjà le ton, parce que je trouve qu'elle dit des choses extrêmement profondes avec beaucoup d'humour. Et puis avec beaucoup de simplicité. Et je pense que c'est une qualité première pour moi dans un... pour le style en fait de la littérature. J'aime beaucoup que ce soit aussi fluide et simple à comprendre, quoi. Et puis, que dire ? En fait, elle dit vraiment des choses essentielles, c'est-à-dire on peut pas réduire un individu à son genre, on peut absolument rien dire, en fait, sur les faits que...
Les sexes cachés, les sexes apparents, les surprises...
L'apparence ne montre rien de qui on est, enfin, il y a vraiment... Enfin, je trouve qu'il y a... Il y a vraiment tout. Alors là, j'ai choisi cet extrait précisément, mais tout le livre est...
Et c'est il y a pile 100 ans, presque 100 ans, 1928. Ouais.
Oui, tout est émaillé voilà, de considérations bah, justement extrêmement fines sur qu'est-ce que c'est qu'être vivant et comment on se débrouille avec les injonctions sociales et comment, en fait, on navigue tout le temps entre des, une sorte de masculinité, de féminité, voilà, qui est... Voilà, qui sont en fait
des pôles,
des déterminismes sociaux parfois et des pôles voilà et des pôles voilà en fait c'est aussi dire que on la société les catégories nous réduisent en fait infiniment et qu'il faut toujours être dans le mouvement pour en sortir. Donc en fait Orlando c'est un personnage, puis c'est un personnage qui veut écrire aussi et c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire c'est un poète qui devient une poétesse, qui devient une femme qui écrit au XVIIe siècle, je crois, au moment où Shakespeare écrit ses premiers vers, c'est un homme qui veut écrire aussi et qui veut pas faire la guerre. Enfin, il y a voilà. Donc en fait, ce personnage est infiniment sympathique et on le suit à travers les siècles et donc on se rend compte que en fonction des époques et des aventures, voilà, les injonctions sociales se jouent pas de la même manière en fait aussi.
Vous dites que vous avez lu ça. Autour de la vingtaine, Barbara Carlotti, donc ok, grande ouverture esthétique sur ce que propose de fou avec ce texte-là Virginia Woolf, mais toutes ces considérations que vous venez de détailler, qui sont des considérations très profondes aussi, existentielles, de la navigation entre les genres, de comment se dépatouiller avec les attentes sociales, etc. Est-ce que ça vous aide aussi là-dessus ou est-ce que ça vous fait des propositions aussi sur ce plan plus intime ?
Alors moi, j'avais noté dans un carnet à l'époque où je l'ai lu que Virginia Woolf était une femme en feu et que je voulais être comme elle. Et je pense que j'avais effectivement, je m'étais... En tout cas, je pense que je me suis accrochée à ce qu'elle propose dans le livre, c'est-à-dire permets-toi toutes sortes de choses. Tu sais, tu vas. Il y a des. C'est une femme dans une société qui forcément te laissera pas forcément libre, mais tu peux aussi te permettre beaucoup, quoi. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est d'abord ça, et puis cette vivacité, cet humour tout le temps, tout le temps, tout le temps.
C'est alerte, ouais. C'est vif.
C'est vif, c'est alerte, et puis c'est cultivé. Il y a plein de références à la littérature. Bon, ça, je pense que je l'ai lu 4 fois, en fait, Orlando. Donc je pense qu'il y a plein d'étapes dans ma vie où j'ai rendu plus conscient encore ce qu'elle voulait transmettre dans ce livre.
Magnifique. On va écouter la voix et je souligne le mot exprès de Déborah Lévy dans Par les temps qui courent en 2020, elle qui parle précisément d'une voix qu'elle veut faire entendre.
I think in these books I found a way of speaking.
Je pense qu'avec ces livres, j'ai trouvé une manière de m'exprimer qui était à la fois intime mais aussi en même temps formel, parce que c'est important pour moi d'avoir une forme. Pour écrire ces deux livres, je dois ôter un masque, je dois parler librement, But that's
tu dois not penser to say
librement.
There isn't also a kind of artifice.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas là un artifice.
That would be too neat, you know. All writing is some kind of artifice. So maybe
toute écriture est une forme d'artifice. Donc peut-être que je revais un autre masque.
Write, what is really
pour écrire ce qui est vraiment un mélange entre philosophie, écriture de voyage, texte de voyage, politique du genre, toutes sortes de sujets. Mais la question du genre littéraire ne m'intéresse pas beaucoup. L'écriture est intéressante ou elle ne l'est pas. Donc je me moque que ce soit qualifié d'autobiographie vivante ou d'autres choses. Ce qui m'intéresse, c'est de créer une œuvre littéraire qui me plaise parce qu'elle est proche de ce que je suis, proche d'une voix que j'ai envie de faire entendre.
La voix de la romancière et dramaturge et poétesse britannique Deborah Levy en 2020. Elle est interprétée en direct par Marguerite Capel, toujours remarquable. Ça fait partie des noms que vous avez tout de suite voulu faire figurer dans la liste, Barbara Carlotti. Est-ce qu'on dit un petit mot avant que vous nous fassiez lecture de l'extrait du coup de la vie, qui est le roman que vous avez choisi de lire sur l'œuvre de Deborah Levy?
Deborah Levy, je pense que ça a été aussi un petit choc quand je l'ai découverte. C'est-à-dire j'ai lu la trilogie de la vie vraiment. Enfin, mon livre allait être publié et donc j'étais au seuil et c'était eux qui distribuaient et donc ils m'ont dit ça devrait te plaire. Et ils s'étaient pas trompés. J'ai été complètement emportée et aussi là j'aimais bien ce qu'elle disait sur ce qui m'intéresse. C'est pas le genre de littérature en fait que je fais parce que je pense qu'elle mélange effectivement. Il y a un vrai mélange des genres dans sa façon de, en tout cas, d'avoir composé cette autobiographie, cette autofiction. Enfin, c'est pas une autofiction, c'est une autobiographie vraiment. Et ça m'a beaucoup plu parce que c'est un mélange entre qu'est-ce qui de sa dépression et de son statut d'écrivain femme dans le monde contemporain. Qu'est-ce qui va lui permettre, quels outils de pensée elle mêle à son récit pour s'en sortir. Et ça, c'est fou, quoi. Ouais. Je pense que personne n'avait vraiment fait opérer cette manière-là de façon aussi frontale. Et en même temps, il y a du. Elle parle beaucoup de son enfance, de son père qui a été emprisonné pendant l'apartheid et tout ça en Afrique du Sud. Et donc, il y a aussi des récits dans le récit, quoi. Et bon, et moi, ce récit composite qui mélange son point de vue de femme qui est en reconstruction, ses talents d'écrivaine, parce qu'elle a écrit évidemment énormément avant, et qui met tout ça en perspective, ça m'a vraiment renversée. Et puis surtout, elle me donne directement des outils de pensée et des axes très précis pour déjouer.
C'est très libérateur en fait.
Complètement libérateur.
Et puis
j'aime cette femme, je l'ai rencontrée parce que j'ai eu la chance de lire pour elle et de chanter pour elle. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de, elle est dans une place de questionnement. Elle est jamais en train de juger. Elle est plutôt en train tout le temps de se poser la question et de, ouais, je sais pas. Je la trouve d'une infinie intelligence. Et donc moi, à chaque fois, je suis complètement séduite. Je me dis, c'est génial juste de l'entendre parler, de goûter ses mots. Donc, j'ai lu. Et puis, je pense qu'elle opère aussi quelque chose dans ses livres, c'est-à-dire le lien qui nous attache à nos mères, nous, en tant que filles. Il y a quelque chose de très, très, très fort que j'avais pas lu avant, auquel j'avais pas eu accès. Et je trouve qu'elle, elle questionne
ça me donne envie de relire. Il y a un épisode de Poulet grillé. Non, je sais pas, vous dites merci. Oui. Je vois ça, là. C'est trop.
Et dans Hot Milk, et dans le dernier aussi, Bleu d'août, il y a tout ça encore. Et donc, elle ajoute encore de la matière à ses réflexions. Voilà. Donc, je la trouve fabuleuse.
Un extrait du coup de la vie dans la traduction de Céline Leroy aux éditions du Sous-Sol.
Comment une fleur peut rouvrir une plaie ? Elle le peut et quand elle le fait, c'est un portail sur le passé. Comment une fleur peut-elle révéler des informations sur les personnages principaux et secondaires ? Elle le peut et elle le fait. Comment se fait-il qu'une fleur puisse ressembler à un criminel ? Pour l'écrivain et criminel Jean Genet, l'uniforme rayé des détenus lui faisait penser à des fleurs. On se sert beaucoup des fleurs et des drapeaux pour parler à notre place, mais je ne suis pas sûre de savoir ce que ceux-ci disent. Tout jardinier est un futurologue capable de voir comment une humble petite plante poussera et flamboiera avec le temps. Les futurologues ont-ils des flashbacks ou seulement des flash-forward? J'aimais penser que le passé, comme j'en ai fait l'expérience, a connu la même fin que Ziggy Stardust. Je l'ai vu partir, puis revenir d'entre les morts, dans une série de costumes incroyables. Oui, j'étais complètement d'accord avec Ziggy et avec Kierkegaard. La vie doit être comprise en regardant en arrière, mais il ne faut jamais oublier qu'elle doit être vécue en regardant vers l'avant. Pendant nos pauses dans l'écriture et le jardinage, le jardinier me montrait les différentes sortes de menthe qu'il faisait pousser dans des pots ou m'expliquait pourquoi il élaguait autant le pommier. Je m'étais attachée à cet arbre, ne serait-ce qu'à cause de l'inspiration que me procuraient les écureuils qui parcouraient le tronc de haut en bas et tournaient soudain le regard vers moi, assise seule dans le cabanon. Même s'il semblait étonné, je savais qu'il savait que j'étais là avant de se retourner pour me regarder. C'était le thème de mon livre, « Ce que je ne veux pas savoir », où je faisais l'hypothèse que ce que nous ne voulons pas savoir est ce que nous savons de toute façon et refusons de regarder en face.
Vous avez pointé la vivacité et la drôlerie de Virginia Woolf et on pourrait presque déménager les deux adjectifs ou qualificatifs vers Deborah Levy, qui est si vive, si rapide aussi, et drôle.
Complètement. Alors je ne sais pas si c'est leur côté British.
Ah, maybe.
Mais bien sûr, bien sûr. Et puis émaillée de références aussi tout le temps. Et du coup, qui tisse des grands fils.
On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure de votre amour des correspondances, c'est-à-dire mettre les choses en lien, faire que ça pétille, faire que ça fasse sens. Là, on l'entendait aussi parler du rapport à ce qui ouvre les portails du passé, là, une fleur capable d'ouvrir des plaies. Dans le dernier disque, vous réfléchissez plutôt à un en avant, à chérir son futur, mais c'est aussi ce qu'elle fait dans cette trilogie, d'une certaine manière.
Complètement. Et puis, je pense qu'on ne peut pas chérir son futur si on... Enfin, c'est ce qu'elle dit là. Hein. Si on ne regarde pas son passé de façon critique et qu'on n'essaye pas d'en tirer des leçons, quoi. Mais d'ailleurs, elle parle de fleurs et je pense qu'il y a eu une tribune comme ça il y a quelques temps, pendant le confinement d'Emmanuel Kocha, qui disait ça, qui disait vraiment... Et je pense que voilà notre rapport aux mots, mais aussi à la nature. Et en fait, ce que j'aimais bien dans cet extrait, c'est que la contemplation d'un jardin nous permet en fait aussi de tirer des leçons sur notre propre existence. Donc,
puis c'est beau l'idée que est-ce qu'une fleur peut rouvrir une plaie ? Oui, elle le peut. Et moi, j'aime bien aussi comment elle affirme ces choses-là de la vie, qui sont des choses dont nous faisons l'expérience, mais que nous n'oserions peut-être pas toujours mettre en mots. Alors qu'elle, elle dit oui, bien sûr, en fait, une fleur réouvre une plaie du passé. Je vais vous montrer comment.
Exactement.
C'est génial et ça marche. C'est une vraie démonstration, quoi.
Absolument. Et c'est ce que j'aime chez elle, parce qu'il y a aussi une dimension poétique très forte.
Prosaïque et poétique.
Bon. Ouais.
On va aller de Deborah Levy. Est-ce que c'est un joli chemin, pourquoi pas, à Richard Brautigan, troisième choix
bien
de
sûr,
votre bibliothèque.
C'est un joli
ah ouais,
chemin.
C'est vrai, j'adore. Alors Barbara Carlotti, vous choisissez Un privé à Babylone. Bon, c'est un roman très important de Richard Brautigan. Vous découvrez ça quand ?
Je découvre ça, par exemple, c'est ma sœur qui me l'a passé un jour et qui m'a dit tu vas voir, c'est extra. Et Brautigan, je découvre ça quand je m'intéresse à la Beat Generation. Et puis surtout, je découvre ça il y a longtemps. C'est un copain qui m'avait offert La pêche à la truite en Amérique. Donc, j'ai découvert ça, je pense que j'étais à la fac. Et ensuite, j'ai renoué avec Brautigan
autour de la Beat Generation.
Autour de la Beat Generation, quand je m'intéressais à la Dream Machine. Donc, il y a quelques années pour mon album Magnétique. Et puis, entre-temps, je pense qu'il y a eu, ce don de ma sœur qui a fait que je suis vraiment devenue une inconditionnelle de Brötigam, de sa poésie, puisqu'il a écrit des poèmes merveilleux, et de cette personne, quoi, de cette tendre personne qu'est Richard Brötigam, parce que c'est vraiment une sorte de... Ouais, je sais pas, pour moi, c'est vraiment le bon copain, quoi.
Alors, on va écouter un extrait de Un privé à Babylone, donc initialement paru en 1977, mais dans la traduction vers le français par Marc Chentier pour les éditions Christian Bourgois, c'était en 2003.
Je chante toujours des chants de Noël en prenant ma douche. Il y a quelques années de ça, j'ai passé la nuit avec une femme, à l'époque où je vivais dans un appartement plus chic. Elle était secrétaire chez un gars qui vendait des voitures d'occasion. Je l'aimais vraiment beaucoup, cette fille. J'avais espoir que ça devienne très très sérieux entre nous, voire d'obtenir une réduction de quelques dollars.
On gardera cette interruption, c'est sûr.
Voire d'obtenir une réduction de quelques dollars sur une voiture d'occasion.
J'ai pas compris. J'ai pas du tout compris pourquoi c'est drôle.
Bah, il veut sortir avec la fille pour obtenir aussi. Ah. Enfin, il avait très envie d'être que ça soit très sérieux pour obtenir une réduction de quelques dollars sur une voiture d'occasion. On était déjà sortis plusieurs fois tous les deux, mais la première fois qu'on couchait ensemble, on s'était pas mal débrouillé du tout. Enfin, moi je trouvais. C'était l'époque où j'avais du savon, et du coup, le matin, je suis allée prendre ma douche. Elle était toujours au lit. Lorsque je suis sortie de la pièce, je suis passée sous la douche et je me suis mis à chanter. C'est par un clair ciel de minuit qu'un chant de gloire est arrivé. Je chantais tranquille. Quand j'ai eu fini de prendre ma douche, je suis revenue dans la chambre. Elle n'était plus là. Elle s'était levée, habillée, et elle était partie sans rien dire. Mais elle avait laissé un mot sur la table de chevet. Le mot disait « Cher Mr. Card, je vous remercie pour ces bons moments. Ayez la gentillesse de ne plus me rappeler. Salutations distinguées. » Il faut croire qu'il y a des gens à qui ça plaît pas d'entendre des chants de Noël en plein mois de juillet.
Un privé. J'ai perdu le titre.
Un privé à Babylone.
Un privé à Babylone. On est en 1942, c'est ça ?
Ouais, je sais pas.
Ok.
Oui, sans doute.
Et qu'est-ce qui se passe alors dans ce livre ?
Eh ben, Mr. Card doit aller piquer un cadavre dans une morgue. Il a une mission, on lui file une mission. Alors, il a pas de sous, il se débrouille assez mal avec la vie, et puis on lui propose de faire ça pour gagner des sous. Donc, c'est vraiment un pastiche de roman policier. Donc, je crois que j'aime vraiment ça, le pastiche en littérature, parce que je me dis Orlando et
ouais,
tout.
Enfin, fausse biographie, ouais, c'est vrai.
En fait, j'aime qu'on joue avec les styles et les genres. Et
ouais, tout ce
ça.
Que vous disiez de Deborah Levy, c'est-à-dire que c'est complètement.
Ouais, j'aime bien qu'on manipule un peu les types de récits et qu'on s'en amuse en fait. Qu'il n'y a rien de sérieux dans tout ça finalement. Mais voilà, donc ce privé, il est engagé pour aller piquer ce corps. Mais en fait, il va lui arriver un truc. Enfin, c'est compliqué sa mission. Mais en plus, par ailleurs, il passe son temps à rêver de Babylone. Et donc, il y a comme un récit parallèle de ses aventures. Autant c'est un loser dans la vie réelle, autant dans sa vie rêvée, c'est vraiment, il se passe des choses formidables à Babylone, il réussit tout, quoi. Et puis, il a une imagination formidable. Donc, on est tout le temps entre le rêve et la réalité. Et puis, tout.
Territoire que vous aimez bien. Territoire trouble que vous aimez bien, Barbara Carlotti.
Territoire que j'adore, ouais, complètement. Et donc, voilà, il lui arrive tout le temps des aventures. Il y a aussi tout le temps de l'humour. Bah, comme là, il tire des conclusions sur la vie tout le temps. Sur la façon dont se comportent les autres, où on sent qu'il y a quelque chose d'un, il est un peu inadapté, en fait, à la réalité, quoi. Et ça donne lieu à des péripéties extraordinaires, quoi. Donc, je sais pas, tout est, Mais tout est plaisant parce que il y a de la poésie partout dans Brötigam. Il y a de la poésie, hein, mais de la poésie du quotidien, des toutes petites choses. Enfin voilà, une façon de goûter les petites choses de la vie, en même temps voilà de d'avancer comme ça un peu au hasard quoi. Et c'est un peu ça la vie quand même. C'est, il nous tombe des trucs dessus, on comprend pas toujours tout, et puis on est obligé de se débrouiller avec. Et je trouve que Brötigam, c'est pour ça que c'est un copain quoi. C'est qu'il en fait quelque chose d'infiniment poétique.
On va rester peut-être dans un territoire entre le réel et le rêve, ou le jour et la nuit. On va vous faire entendre une deuxième voix, c'est celle du romancier américain Philip K. Dick. Ici, il est en entretien en 1977. Ça se passe à Metz.
First of all, there is a major flaw in America.
D'abord, je dois dire que les États-Unis ont un gros défaut que l'on ne retrouve pas en France. Les Américains sont profondément anti-intellectuels. Ils ne s'intéressent pas aux romans qui défendent des idées. Or, la SF traite principalement des idées. Il faut ajouter à cela une autre facette de mon travail qui me différencie des autres auteurs. J'ai grandi à Berkeley et mon éducation ne se limite pas du tout à la lecture des romans de SF écrits avant les miens, ceux de Van Vogt, Heinlein, Paget ou Bradbury. Comme Berkeley est une ville universitaire, j'ai lu Flaubert, Stendhal, Balzac, Proust et les romanciers russes influencés par les Français comme Turgenev. Ma popularité en France est en grande partie due au fait que les romans réalistes très tranches de vie dont je suis l'auteur sont en grande partie inspirés par des romans réalistes français du 19e siècle. D'une certaine manière, ce que je sais du roman, je ne l'ai pas appris auprès des Américains, mais des Français. Donc c'est peut-être logique que je plaise en France.
La voix de Philip K. Dick, romancier en 1977 dans cet archive, pour parler de votre choix. Tout à l'heure, vous disiez, Barbara Carlotti, j'ai grandi, j'ai lu, j'ai aimé lire et je lisais de la SF. Est-ce que vous lisiez déjà, adolescente, Philip K. Dick?
Non, pas K. Dick, non, ça je ne connaissais pas. Non, je lisais Bradbury. En fait, j'étais très marquée ado par les Chroniques martiennes.
Et découverte en fait, comme ça, pareil?
Non,
c'était
je
dans
pense
la bibliothèque.
C'était à l'école, ça.
D'accord.
Il me semble que c'était à l'école. Mais ça, enfin, j'ai encore des images, des souvenirs visuels de ce que je voyais quand je lisais Chroniques martiennes ado. C'est marrant parce que ça m'est vraiment resté.
Ce qui est quand même puissant comme terme.
C'est hyper puissant.
En termes de mémoire, je veux dire.
Ouais, ouais. Souvent, les livres me laissent des images. Mmh. Donc, parfois, j'oublie carrément des pans entiers de romans, mais j'ai des images quoi, qui ont surgi.
Et Kadik ?
Et Kadik, j'ai découvert. Quand est-ce que j'ai découvert Kadik ? Il y a un petit moment, mais en tout cas. Oui, parce que je suis une fan absolue de Blade Runner, du film. Donc je pense que j'ai découvert après avoir vu Blade Runner plusieurs fois. Et j'ai été extrêmement surprise sur Blade Runner parce que pour moi, le film est absolument pas une bonne interprétation. Alors pourtant, j'adore le film, mais pour moi, ça n'a rien à voir. Quasiment rien à voir avec ce que raconte réellement K. Dick dans le roman. Et quand il dit que lui, il fait une forme de philosophie à travers ses fictions, je suis complètement d'accord. Il est tout le temps en train de distiller des idées sur notre existence, sur les systèmes dans lesquels on évolue, sur pourquoi. Et je pense que c'est un grand écologiste, je sais pas comment dire, un grand écolo, Philip K. Dick. Et en fait, il passe son temps à défendre des valeurs que sont l'empathie et le respect de la nature et des
animaux. Et du vivant.
Et du vivant, ouais. Et le vivant est hyper présent comme étant vraiment notre premier lien au monde et voilà. Donc, pour moi, en fait, j'étais vraiment transportée. Alors après, il y a d'autres romans comme Substance Mort et tout ça où je trouvais un peu plus bordélique et sinueux et tout. Mais je vois toujours ces métaphores. Enfin, il y a quelque chose où je comprends toujours plus ou moins sa pensée, ses métaphores et tout ça. Et puis il a quand même une imagination complètement psychédélique qui me plaît évidemment beaucoup, quoi. Puis moi j'aime bien le cosmique, tout ce qui est cosmique, bien sûr.
On lit un extrait. Vous lisez un extrait de Ubik.
Ouais, Ubik.
Alors Ubik, qu'est-ce qu'on dit de Ubik? On dit que c'est publié aux États-Unis en 1969, en France tout de suite après en 1970, avec une traduction originale d'Alain Dorémieux. Et la nouvelle traduction, c'est peut-être ça que vous lisez. Elle est signée Hélène Collomb pour les éditions J'ai lu.
D'abord, je voudrais le lire, parce que tout le roman, il est émaillé à chaque chapitre de publicité. Et donc, les premières phrases du livre, c'est: les amis, tout doit disparaître. Nous soldons la totalité de nos Ubik électriques, silencieux, à des prix défiant toute concurrence. Oui, nous liquidons l'ensemble de nos articles et n'oublions pas que tous les Ubik de notre stock ont été utilisés conformément au mode d'emploi. Et en fait, à chaque chapitre...
Il y a une page de pub.
Ouais, mais c'est toujours Ubik. C'est-à-dire, Ubik, c'est le produit, c'est la marchandise capitaliste, en fait.
Ce n'est pas sans lien avec l'extrait que vous avez choisi de lire.
Absolument. Ubik dénonce vraiment le système capitaliste américain. Donc, et là, bah, je ne peux pas vous raconter tout, mais on arrive à un moment un peu de l'intrigue assez compliqué pour notre héros, Joe. Et il veut juste prendre un café. Les mains dans les poches, il se dirigea vers la cafétéria de l'Astroport, se sentant maussade et morne. À partir de maintenant, songea-t-il, tout rentre dans la routine. Nous sommes revenus sur Terre. 5 cents, s'il vous plaît, dit la porte de la cafétéria en demeurant fermée devant lui. Un café, dit-il, crème ou sucre? Questionna le haut-parleur juché sur la tourelle de commande de la cafétéria. Les deux. Une paroi vitrée s'ouvrit, une tasse à café, 2 sachets de sucre en poudre et un petit tube de crème fraîche glissèrent vers lui, vers le comptoir. Un post-cred international, s'il vous plaît, dit le haut-parleur. Mettez ça sur le compte de Glenn Runciter de la firme Runciter Associates à New York, dit Joe. Veuillez insérer la carte de crédit adéquate, dit le haut-parleur. Il y a 5 ans que j'ai plus le droit de détenir une carte de crédit, répondit Joe. Je paye toujours ce que je dois en un post-cred, s'il vous plaît, répéta le haut-parleur. Il se mit à tic-taquer de façon menaçante. Sinon, dans 10 secondes, j'avertis la police. Joe donna le post-cred. Le tic-tac s'arrêta. Nous pouvons nous en passer, des gens comme vous, dit le haut-parleur. Un de ces jours, fit Joe, avec colère. Les gens comme moi se dresseront pour vous renverser et la fin de la tyrannie des machines homéostatiques sera arrivée. Le temps de la chaleur humaine et de la compassion reviendra. Et quand ça se produira, quelqu'un comme moi, qui sort d'une rude épreuve, qui a grand besoin d'un café chaud pour se remettre, pourra se le faire servir même s'il n'a pas de post-cred à donner. Il voulut verser le tube de crème et le reposa. Et en plus, votre crème est tournée. Ou votre lait, ou je sais pas quoi. Le haut-parleur resta silencieux. Vous n'avez rien à dire ? Demanda Joe. Vous étiez plus bavard quand vous réclamiez un post-cred.
Tout à l'heure, vous avez dit, Barbara Carlotti, qu'il y avait dans vos lectures aussi la recherche d'outils de pensée. Alors, on a bien vu que vous vous attardiez sur plein de choses, des aspects très sensibles, des aspects très poétiques, des aspects de langue, de brouillage, de forme et de genre. Mais par exemple, là, est-ce qu'il y a aussi l'idée d'être en mesure, par la littérature, de comprendre quelque chose à un grand système capitaliste et que ça vous donne quand même des billes pour penser, pour réfléchir ?
Forcément, je pense que tout ce qu'on lit nous donne des
billes. Des billes. Des tout est à prendre.
Mais il y a aussi des langues plaisantes. Enfin, j'adore ce genre de dialogue hyper commun et tout ça, et qui dit des choses super fortes en fait, mais en 2 phrases dans une situation. Bien sûr que ça donne des ça donne des éléments de pensée. En tout cas, je crois que Philippe K. Dick, il fait ça aussi pour ça, quoi, vraiment. Mmh. Il essaye de nous mettre face à des situations, fussent-elles sur la Lune ou sur Terre ou sur Mars, qui en fait sont vraiment des transpositions de notre condition d'être humain, quoi. Donc c'est ça qui me plaît chez lui.
On va vers le dernier choix, et c'est de la poésie, retour à la source. Vous disiez en tout début d'entretien, Barbara Kaluti, combien la poésie avait été importante, notamment dans votre adolescence. Est-ce que vous lisez Baudelaire ?
Je lis toujours Baudelaire depuis que j'ai 12 ans. J'ai découvert Baudelaire en 5e. Ma prof de français, j'avais...
Ouais. Bah, grâce lui soit rendue.
Ouais, grâce lui soit rendue. Et je pense que j'ai découvert Baudelaire... à une période vraiment, enfin cette période de l'adolescence où tout est un peu en révolution en nous, et ce tourment, ce spleen baudelairien, je pense, avait un écho très fort en moi. Et puis parce que, pas que pour la poésie, mais effectivement, après quand j'ai fait le conservatoire en chant lyrique, j'ai chanté pas mal de poèmes de Baudelaire dans des versions musiquées, on va dire ça comme ça. Et j'ai toujours en tête la poésie de Baudelaire parce que j'ai très souvent ces airs qui m'en reviennent un peu comme ça, par vagues. Et je pense que c'était mon première entrée dans comment on fait une chanson. Mmh. Bah, on prend un poème et puis on le chante.
Et,
quoi. Et puis on le met en musique. Ouais. Et vraiment, ça fonctionne toujours comme un peu comme ça pour moi. C'est-à-dire, il y a parfois des textes de littérature d'ailleurs où je me dis faut absolument que j'arrive à en faire une chanson. Puis au final, je n'en fais pas vraiment une chanson avec le texte même, mais je pense que ça se transforme. J'ai envie de le chanter, quoi.
Et pour que la boucle soit parfaitement bouclée, bravo. Le poème que vous avez choisi s'appelle Correspondance et c'est une des premières choses que vous avez dites à propos de votre goût pour les arts et pour la lecture. Alors on vous écoute le lire.
La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens.
C'est pas trop pour souligner le côté bouclé, même si c'est toujours plaisant à la radio que vous affectionnez autant que moi, Barbara Carlotti, mais j'évoquais en introduction votre chanson « Le syndrome de Stendhal » et la fin de ce poème. « Ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens, m'y ramène quasi illico quoi, à cette chanson-là. »
Complètement. Mais je pense que oui, c'est ça. Enfin, en tout cas... C'est ce qu'on cherche en fait. On cherche tout le temps à être transporté ailleurs, quoi, de notre petite condition. Donc, oui, bien sûr.
Mais il y a aussi le transport au sens de son équivocité du transport amoureux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très proche, même je trouve, même dans votre manière de parler des textes. Il y a un sourire, quoi, qui a presque à voir avec un transport amoureux.
Complètement, mais je pense que en tout cas, c'est des émotions. Pour moi, il y a vraiment, on peut adorer la littérature. Enfin, on peut adorer les mots, on peut adorer les sons. Moi, La musique, par exemple, j'adore. Enfin, il y a des moments où je suis complètement émue, voilà, par un son ou par un accord, par exemple. Quand on travaille sur le disque avec Maxime Daoud, il transformait mes accords et il y rajoutait des notes qui faisaient que je lui disais, tu joues les harmonies de l'amour. Mais vraiment, il y a quelque chose de... Oui, je pense qu'il y a des vibrations. En fait, on atteint des vibrations particulières... avec la musique, la poésie, la littérature, et aussi avec les idées, en fait.
Oh là là, ça y est, ça va devenir un but dans ma vie, de savoir jouer les harmonies de l'amour.
Ouais.
D'une certaine manière, il faut que je me débrouille pour.
Oui, oui, oui. En fait, je pense qu'on a tous une musique en nous, et cette musique, on la joue de plein de façons différentes, avec des médiums différents. Mais je pense qu'on fait vibrer, effectivement. Il faut, enfin, voilà. En tout cas, moi, c'est ça, je pense que quand on vibre à l'unisson avec les autres, c'est ça l'amour en fait.
Merci infiniment d'avoir ouvert votre bibliothèque, Barbara Carlotti.
Avec plaisir.
On se quitte avec un extrait de votre disque.
La mort est partout, elle t'attend à tous les coins de rue. Elle ne passe pas par quatre chemins, elle te prend quand tu ne l'attends plus. La mort est partout, elle t'attend dans tous les recoins. Avec ta perche à selfie sur le bord du ravin. Il suffit d'un pas dans le vide, ta voiture sur la mauvaise file, ton jet propulsé vers le sol, ta coke, ta bouteille ou ta clope, un as de pique retourné sur le sol, un cancer qui t'arrache les cellules, c'est ton âme qui prend son envol. La vie est risquée, rapide, fatigue. La mort est gloutonne, cruelle, stupide. La mort te pend au nez. Au moindre mouvement de cils, la vie est pavée d'or, aussi lourd que l'abîme. La mort est partout.
Au son aujourd'hui, c'était Dali Yaha, à la réalisation Anna Holweck. Pour retrouver tous les textes, édition, traducteur, traductrice évoquée par Barbara Carlotti, rendez-vous sur la page du Book Club franceculture.fr. C'est aussi sur cette page que vous pouvez être redirigé vers nos autres portraits de bibliothèque. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club qui se réécoute via l'application Radio France.
Tu joues avec le feu dès que tu sors du cadre, mais tu ne peux pas rester la tête dans le sable. Non, tu ne peux pas rester la tête dans le sable. La vie est risquée, rapide, fatigue. La mort est gloutonne, cruelle, stupide. La mort te pend au nez. Au moindre mouvement de cils, la vie est pavée d'or, aussi lourd que l'abîme. Donc chéris ton futur et soigne bien ton style. L'amour est partout, il t'attend à tous les coins de rue. Il ne passe pas par quatre chemins, il te prend quand tu ne l'attends plus. L'amour est partout et par tous les temps. L'amour est partout, c'est ton cheminement.